Les Capitals sont en action 19h au Stade Canac ce soir face aux Aigles de Trois-Rivières.
Il y a un article ce matin dans le journal qui a retenu mon attention, l'article de Jean-Michel Genois-Gagnon qui dit, je titre, le titre « La fin de l'hémorragie dans le marché des condos à Québec. Le nombre de transactions est en augmentation et il y a une hausse légère des prix ». Donc, les propriétaires et de condos, puis même de maisons unifamiliales vont être contents d'entendre ça. Et pour en discuter, on reçoit en studio celui qui est évaluateur agréé, Steve Cassidy. Bonjour et bienvenue au FM 93.
Bonjour.
Salut, Steve.
Donc, Steve, on a eu des années, je dirais pas, il n'y a pas eu de chute, là, mais de stagnation, on peut dire ça. On avait comme l'impression qu'on avait atteint un plateau, surtout pour le marché des condos, un peu moins les maisons, mais quand même, il y a eu un ralentissement clair au niveau des prix, puis même des ventes. Est-ce que tu partages ce constat-là? C'est ce que tu as vu toi aussi au cours des dernières années sur le marché de Québec?
Ben effectivement, il y a eu une certaine stagnation au niveau des prix du condo depuis 5-6 ans. Un peu le condo à mauvaise presse. Là.
Oui.
Par contre, ce redressement-là est un peu prévisible parce que depuis 5-6 ans, on voit qu'il y a beaucoup moins de construction sur le marché. Les promoteurs se sont ajustés là, à la baisse de la demande. Donc, il y a moins de construction qui a eu lieu. Donc là, on est en train d'absorber les unités qui étaient demeurées invendues.
Quand il y a de la construction, on a l'impression que maintenant, c'est pour du locatif.
Oui, énormément de locatifs depuis 2011-12.
C'est ça. Avant ça, il n'y avait pas ça. Là, les condos, c'était pour vendre,
non,
c'était pas pour louer.
Effectivement.
Puis là, on voit une légère hausse. Qu'est-ce que ça veut dire, là, que l'économie va bien, que le marché de l'emploi va bien, que la population est en croissance, que les acheteurs ont confiance? Qu'est-ce qui explique, selon toi, cette légère hausse-là?
Ben, un peu de tout ça. C'est sûr que la population vieillissante a un impact sur la demande au niveau du condo parce que c'est un type de produit qui va s'adresser beaucoup à soit des premiers acheteurs ou des gens en fin de carrière ou des retraités.
Ou des boomers,
oui. Oui, effectivement. Donc, la hausse de l'âge moyen de la population a un impact certain là-dessus. Les taux d'intérêt qui sont restés bas malgré l'année passée, on avait peut-être une petite tendance à la hausse. Puis là, cette année, on voit que les taux d'intérêt sont demeurés bas. Le monde travaille, l'économie va bien, donc c'est tous des éléments là, qui font en sorte que le marché se redresse tranquillement, pas vite.
Est-ce que c'est un marché d'acheteurs ou de vendeurs présentement à Québec?
Je vous dirais que c'est un marché qui est équilibré dans certains types de propriétés. Dans le condo, il y a plusieurs secteurs où encore c'est encore un marché de vendeurs. Dans l'unifamilial, ben là, ça dépend des secteurs. Il y a des secteurs où c'est plus équilibré, d'autres, il y a des marchés d'acheteurs, d'autres de vendeurs.
Où ça se porte bien, puis où ça se porte moins bien sur le territoire? Où sont-ils va géographiquement?
Ben, je vous dirais dans des secteurs comme les rivières, l'ancienne Lorette, c'est des secteurs qui sont toujours très en demande. Puis actuellement, c'est des marchés qui sont légèrement à l'avantage des vendeurs.
Ça, c'est l'ancienne Lorette?
Oui, l'ancienne Lorette, les rivières, Neuchâtel, le Bourgneuf, ces secteurs-là, c'est des bons secteurs actuellement.
OK. Puis les secteurs où c'est plus difficile?
Ben des secteurs plus difficiles, là, il y a encore comme Sainte-Foy, la Haute-Ville, il y a certains marchés qui sont à l'avantage des acheteurs. Je vous dirais la majorité des secteurs sont encore à l'avantage des acheteurs, à part quelques-uns là, qui sont à l'avantage des vendeurs.
Steve, quel conseil tu donnerais à des vendeurs qui veulent mettre leur maison sur le marché? Quel conseil on pourrait leur donner aujourd'hui dans le contexte là, de ce qui se passe à Québec?
Bien, la première étape, c'est d'avoir une bonne idée de ce que ça vaut, la propriété que vous avez entre les mains.
Bien évaluer la valeur
bien
de ce
évaluer
qu'on a.
La valeur. Souvent, des fois, les gens vont mettre un peu de sentiment là-dedans, vont demander des prix beaucoup trop chers, ce qui fait en sorte qu'ils ne sont pas capables de vendre leur propriété. Donc, quand on a une bonne évaluation de la propriété, ça donne un bon coup de main pour la vendre. Et puis, d'avoir aussi une bonne méthode de vente. Si les gens sont assez à l'aise d'y aller avec du proprio ou ces choses-là, ça peut être bon, mais un bon courtier qui travaille dans votre secteur puis qui est actif et qui connaît bien le marché, ça peut donner un coup de main aussi.
Parle-moi des gens de la Rive-Sud. Le marché, ça arrive ça, il y a l'air de quoi du côté de Lévis puis
ben,
les banlieues?
Lévis, historiquement, ça a toujours été un bon marché. C'est un marché qui est très actif. C'est un marché qui est abordable. C'est une belle alternative pour versus la Rive-Nord.
Surtout avec le troisième lien qui s'en vient.
Avec le troisième lien qui s'en vient, bien sûr. Mais ça a toujours été un marché généralement assez actif. Donc, c'est un marché qui performe bien. Il y a beaucoup de projets à Lévis. C'est une ville qui est dynamique. Donc, c'est un bon marché actuellement.
On dit souvent que le marché est en fonction du nombre de condos que tu as à vendre ou le nombre de maisons que tu as à vendre par rapport au nombre d'acheteurs. C'est quoi le ratio, grosso modo, que vous estimez présentement? Y en a-t-il un?
J'ai pas les chiffres en tête là directement, mais je vous dirais qu'on varie, c'est variable d'un secteur à l'autre, mais un marché équilibré, on parle de 10 vendeurs pour un acheteur. Je sais que dans le condo, actuellement, on est à 17, donc il y a encore d'ouvrage à faire avant d'atteindre un marché équilibré, mais on parle de 10 en moyenne, là, on parle de marché équilibré.
On dit souvent que l'immobilier, là, c'est notre premier gros investissement dans la vie, puis ça part bien pour un jeune couple. Quel conseil on peut leur donner, là, si un jeune couple là, qui part dans vie puis qui veut accéder à la propriété, qu'on peut leur conseiller?
On peut leur conseiller de poser des questions, aller voir leur conseiller bancaire. Maintenant, il y a des nouveaux programmes qui s'adressent aux premiers acheteurs pour les programmes d'accession à la propriété. Bien magasiner, bien établir dans quel secteur ils veulent s'établir, regarder les services, pas hésiter à faire des visites, à se promener, puis à magasiner, puis déterminer c'est quoi leurs besoins, puis dans quel secteur ils peuvent retrouver ce dont ils ont besoin.
Il y a un secteur qu'on parle rarement dans l'immobilier, mais qui est intéressant, puis qui est très important, c'est le côté commercial.
Mm-hmm.
Ça se porte comment, ça, à Québec? Avec l'emploi qu'on a, puis la pénurie de main-d'œuvre, j'imagine que le commercial aussi doit être en bénéficier.
Le commercial est excellent. Si on parle surtout au niveau, là, les deux principaux secteurs où on a des hausses de valeur, puis qu'il y a de la demande est très importante, c'est au niveau industriel et au niveau hôtelier.
Ah oui.
Donc, il y a beaucoup d'acheteurs.
Hôtelier, c'est les Chinois, hein?
Il y a beaucoup de Chinois sur le marché qui achètent. On a vu la semaine dernière un article qui est sorti là, sur une famille chinoise qui achetaient des propriétés dans le Vieux-Québec. Ils achètent un petit peu partout sur le territoire de Québec.
Mais c'est drôle parce que l'hôtellerie, on dit tout le temps qu'à cause d'Airbnb, là, ils n'arrêtent pas de dire qu'ils sont en train de manger leur bas, puis alors qu'on voit que le secteur est en croissance. C'est ça qui est bizarre parce qu'on pensait qu'Airbnb allait faire comme avec les taxis, avec Uber, tu sais, qu'eux autres, ça ne vaudrait plus rien. Mais c'est le contraire qui arrive.
Bien, c'est sûr que le marché touristique est excellent depuis 2015 à peu près. Il y a beaucoup de touristes. Le taux de change avec les États-Unis a fait en sorte qu'il a amené beaucoup de touristes. Il y a de plus en plus de Chinois qui voyagent parce qu'ils ont de plus en plus les moyens. Donc, il y a énormément de touristes à Québec. Ça a fait augmenter les taux d'occupation, le niveau des tarifs moyens aussi. Donc, il y a beaucoup de demandes actuellement pour les produits hôteliers.
Pour ceux qui veulent un peu investir, là, parce que là, on voit la bourse aujourd'hui, là, ça remonte d'1%, mais ça fait 6 jours que c'est en baisse. Hier, c'était 3%. Il y a des gens qui ont pas le cœur solide. Ils n'aiment pas ça quand ça monte et ça descend. C'est comme les vagues dans le bateau. Il y en a qui ont de mal de mer, c'est pas long. Un multilogement, c'est s'acheter un duplex, un triplex, un quadruplex, un six logements. Des fois, c'est un investissement peut-être plus stable, plus prévisible à moyen pas à long terme. Y a-tu des deals à faire dans la région ou pas? Comment il faut calculer pour avoir un rendement? Comment quelqu'un qui veut s'initier puis qui t'écoute puis qui dit là j'ai le goût, Steve, explique-moi ça là.
Ben, des deals, c'est sûr qu'il y en a toujours, mais des fois, c'est peut-être un peu plus long pour les magasiner parce que le marché, depuis plusieurs années, le marché est très bon. Les vendeurs demandent des prix qui sont relativement élevés. Donc, faut vraiment magasiner, prendre le temps là, d'analyser les chiffres. Mais c'est sûr que c'est un marché là, qui demeure en général un bon placement.
Comment il faut calculer ça? Mettons, j'achète... On va juste faire un exercice pour le fun, OK? Mettons, j'achète quelque chose à 200 000 $. J'achète un duplex à 200 000 pour me faire des chiffrons. Là. Fait que là, je calcule combien ça me coûte d'hypothèque par mois. Là, je sais pas, ça, je vais arriver à quoi, 1000 piastres, 1000 quelque chose, là?
Ouais, mettons 1000.
Mettons, ça me coûte 1000 piastres par mois. Je dis, mes taxes, mettons, me coûtent une coupe de 100 par mois, là. On va dire
300
juste pour le fun. Puis là, je dis, c'est quoi mes assurances, mes affaires de base, là? Mais mettons qu'au total tout, ça me coûte 1500, mettons, par mois. Fait que là, je regarde combien de revenus je peux avoir dans mes deux loyers. Pis si ça égale 1500, là, je dis, OK, j'achète. C'est comme ça qu'il faut calculer ça?
De façon simple, ça devrait être... C'est sûr que c'est un minimum. Il faut au moins, quand on achète, essayer de couvrir les dépenses puis l'hypothèque, parce que sinon, s'il faut toujours remettre de l'argent dans le compte à chaque mois, c'est pas le fun. C'est ça. Donc, il faut que minimalement, le rendement, faut au moins que les revenus couvrent les dépenses, mais il faut se prévoir aussi qu'éventuellement, peut-être dans 5 ans, la toiture va être à changer. Ouais. Il faut prévoir qu'on va peut-être avoir un logement de vacant de temps en temps.
La tank à eau chaude, la toiture.
Effectivement.
Il va y avoir des problèmes de ci, de ça, d'électricité, de plomberie.
Effectivement. Donc ça, faut le prévoir aussi à long terme qu'il va y avoir des sorties de fonds. Donc, faut idéalement se générer un petit cash flow à chaque année pour être capable de mettre de l'argent de côté puis pas être toujours être obligé de refinancer l'immeuble puis de jamais finir de le payer parce qu'on n'a pas les liquidités pour payer nos réparations.
Je veux que tu me parles aussi des flips parce qu'il y a de plus en plus de monde. On voit des émissions de télé puis ça donne le goût à bien du monde de faire ça. Ils achètent une maison, ils la rénovent un peu. C'est une maison un peu, en bon québécois, décrissée, là, un peu maganée. Là. Et les gens qui sont un peu rénoveurs, bricoleurs, ils aiment ça. Ils mettent un peu de temps d'argent là-dedans, puis ah ouais, on revend un peu plus cher après. Y a-tu vraiment de l'argent à faire ou c'est juste des émissions de TV qui font une fortune avec ça?
C'est certain que les émissions de télé, souvent, ça se passe aux États-Unis. Donc, le marché est différent, le coût de la main-d'œuvre est différent, etc. Donc, c'est sûr qu'à Québec.
Il y a moins de Mexicains qui travaillent à 10 piastres d'heure ici à Québec qu'à Californie, je pense.
Effectivement. Il y a moyen de le faire, mais c'est un emploi à temps plein. Il faut vraiment magasiner, faire les bons deals à l'achat, avoir un coût de main-d'œuvre pour les travaux qui n'est pas trop cher, mettre la main à la pâte, puis il faut vraiment magasiner, puis si on fait ça juste pour comme sideline, là, ça devient plus difficile parce que les deals sont plus rares qu'ils étaient peut-être il y a 20 ans.
Moi, je remarque deux choses. Tu me diras, Steve, si tu es d'accord. De un, il n'y en a pas de cadeau. J'ai fait un deal. C'est jamais aussi vrai qu'on pense. T'es-tu d'accord avec ça?
Ben, dans la plupart des cas, c'est sûr quand vous allez au souper de Noël avec votre famille, puis c'est sûr que quand tu parles à quelqu'un, il ne dira jamais qu'il s'est fait avoir. Donc, il va toujours dire qu'il a fait un bon deal.
Ouais, c'est vrai, je me suis fait fourrer à côté. J'ai perdu 50 000 piastres dans ma vente de condo.
Mais je pense pas que ça non plus, ça arrive si souvent, très honnêtement. Je pense tout le temps que le prix... Parce que c'est quoi le prix dans la vie? Le prix, c'est ce que quelqu'un est prêt à payer. C'est ça, le prix. Moi, j'entends du monde des fois dire « Ah, chez nous, ça vaut 325 000. »
C'est sûr que deux...
Si personne te le donne, le 325 000, ben ça vaut pas.
C'est sûr que des fois, deux... Mettons, toi et moi, on sera pas prêt à payer le même prix pour une maison parce pour différents facteurs. Des fois, le secteur t'intéresse pas, il y a trop de travaux à faire. Moi, je suis manuel, ça me dérange pas de faire des travaux. Donc, la valeur aux yeux d'une personne va peut-être être différente qu'aux yeux d'une autre personne. Donc, ça, à la base, ça fait valoir.
Mais mon point, c'est que si ni toi ni moi, ça nous intéresse, parce que ce prix-là marche pas.
C'est sûr que la maison va être affichée sur le marché, puis elle se vendra pas.
C'est ça.
Jusqu'à temps qu'elle atteigne son prix, où là, ben, il y a des acheteurs qui sont prêts à payer.
Et voilà.
Donc, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, si on demande trop cher en partant pour une propriété, parce que des fois, il y a des sentiments, puis on s'attache à notre maison. Si on demande trop cher, on la vend pas, puis là, on la brûle un peu sur le marché.
C'est vrai.
On a un auditeur, Pascal, qui nous demande, il dit là, vous parlez des maisons à Québec, puis ça arrive sud, mais qu'est-ce qu'il y en a pour les chalets? C'est vrai, on se pose pas souvent la question, mais ça aussi, c'est de l'immobilier.
Ben, les chalets, c'est sûr qu'il y a toujours une demande. Il y a toujours une demande pour ça. Ça tout dépendant encore de la localisation puis des secteurs dans lesquels c'est situé. C'est sûr que les gens, bon, l'économie va bien, les gens ont de l'argent, ils travaillent, ça revient toujours un peu à la
roue qui tourne.
La roue qui tourne, puis à l'économie. Donc, plus les gens ont de l'argent, ben ils vont peut-être être plus tentés à aller acheter des résidences secondaires. Puis maintenant, avec les Airbnb de ce monde, ben c'est plus facile aussi de quelqu'un dire, je vais m'acheter un chalet, puis quand je suis pas là, je vais le louer. Donc, ça rentabilise un peu, puis ça minimise les dépenses là, pour conserver le chalet.
Est-ce que c'est quelque chose que tu as remarqué? Parce qu'aujourd'hui, on nous souligne que les gens cherchent de plus en plus du luxe, puis de moins en moins de pieds carrés. Parce qu'on dit que c'est les baby boomers aussi, évidemment, qui arrivent en fin de vie, puis ils ont besoin de moins d'espace, puis ils ont un peu plus d'argent, fait qu'ils veulent plus de luxe, moins d'espace. C'est un peu ça qui est en demande.
Effectivement, les familles diminuent, donc on a besoin de moins d'espace, on veut du confort, donc effectivement, il y a une tendance vers ça, là, de construire des logements de qualité, donc on en voit de plus en plus là, des ce qu'on appelle des condos locatifs, donc des immeubles qui sont construits avec une insonorisation supérieure, l'air climatisé, etc. Puis la demande est excellente pour ça.
Là, j'ai une très bonne question. Là, Nancy a dit, qu'est-ce qu'il pense de l'évaluation municipale pour fixer le prix d'une maison pour acheter ou pour vendre? Parce que les gens disent, ah, regardez jamais ça, regardez pas ça. Mais je vais te dire une confidence, Steve, là, on le regarde tout.
Ben, pour le commun des mortels, c'est la seule référence qu'ils ont pour déterminer c'est quoi la valeur. Maintenant, c'est sûr que quand on est dans un secteur homogène où toutes les maisons sont pareilles, puis c'est, ça peut être un reflet plus fiable. Si vous achetez sur une artère où vous êtes la seule maison du même style, des fois, c'est un peu moins fiable. Ça dépend aussi s'il y a eu des travaux qui ont été faits dans la maison, puis qui n'ont pas été déclarés, que l'évaluateur municipal n'a pas vu, ça va influencer. Il peut y avoir plusieurs facteurs, mais ce qu'il faut faire attention, c'est de savoir quand est-ce que la dernière évaluation municipale a été faite. Je prends l'exemple à Québec. La dernière évaluation municipale est en date du 1er juillet 2017. Donc là, on est déjà deux ans passés. Et si on monte à Lévis, c'est un an avant, donc c'est 2016.
Trois ans et demi. C'est OK, il faut faire attention.
C'est
là.
Ça, donc il faut faire attention. C'est pour ça que certaines années, les évaluations municipales vont se vendre beaucoup, c'est-à-dire les maisons vont se vendre beaucoup plus chères que l'évaluation municipale, alors qu'en début de rôle, on va s'en rapprocher.
Bien, Steve, c'est très intéressant. Pour ceux qui s'intéressent à ça, là, je vous dis que dans la dernière année, c'est vendu 5414 maisons dans la région, donc qui ont changé de propriétaire. Le prix moyen de vente était de 257 000. Puis ceux et celles que ça fait une couple de semaines que votre maison est à vendre, ne découragez-vous pas. Le délai moyen pour vendre une maison, c'était 123 jours. Mais tout ça, c'est quand même des bonnes nouvelles parce qu'on nous dit que le délai en termes de jours a baissé d'une semaine, ce qui est quand même pas si mal. Puis en 5 ans, le prix a augmenté de 5 %. C'est pas énorme, mais au moins.